Eh bien, je vais commencer donc peut-être par la métropole de Lyon. Donc en fait, vous dire que la métropole de Lyon s'est emparée du sujet à partir de 2019. En fait, suite à la démarche forcée des démarches administratives nationales, ça a poussé un certain nombre d'organismes du coup à mettre leur démarche non plus en physique, en présentiel, mais de manière numérique, et ça a mis sur le banc de la société une certaine partie de la population. Donc, en fait, on a vu des difficultés parce qu'on a vu arriver un certain nombre de populations dans nos maisons métropoles de solidarité qui ne venaient pas par ailleurs. Et donc, on a voulu faire une étude et on s'est aperçu qu'on était richement doté de lieux de médiation sur le territoire et pour autant, en fait, que ces gens-là ne se connaissaient pas entre eux. Donc, en fait, on s'est fait aider par une AMO. On a monté des ateliers avec les communes du territoire. Donc, la métropole, c'est 59 communes, hein, pour rappel, avec les opérateurs de services dématérialisés. Quand on parle d'opérateurs de services dématérialisés, je veux dire par là qu'on pense à la CAF, Pôle emploi, la CARSAT, la Poste, des grands opérateurs de ce type. Et puis aussi, évidemment, tous les lieux de médiation qu'on pouvait trouver sur le territoire. Quand on parle de lieux de médiation, alors ça peut être des associations de formation, ça peut être des centres sociaux, ça peut être des PIMS, ou Emmaüs Connect, pour ne citer que. Et donc, suite à ces ateliers, on s'est aperçu effectivement que, y avait un rôle à jouer de la métropole, en tout cas d'articulation pour fédérer ces acteurs-là et mettre nos forces en commun. À ce moment-là, l'État a sorti un outil qu'on appelle le pass numérique, qui était en fait un chèque, type chèque ticket restaurant. Qui se traduisait sous forme d'un. Enfin, en gros, c'était un chéquier, c'était 10 chèques de 10 euros qui se traduisaient sous forme de formation dans les lieux de médiation. Et donc, ça nous a permis à la métropole de faire un groupe de travail pour mettre en place cet outil-là. Et on a pu répondre à un appel à projet de l'État où on a eu 600 000 euros, où on a dû du coup jouer, nous, en tant que métropole, le rôle de prescripteur auprès des lieux de médiation qui étaient labellisés pour encaisser ce chèque passaptique. Et donc, en fait, on s'est associé à ça, donc à Emmaüs Connect, au CCAS de Lyon, avec ATD Quart-Monde, les PIMS, Pôle emploi. Et enfin, on était 7 partenaires, on a pu adresser, enfin, l'objectif pour nous était d'adresser 5 500 bénéficiaires sur 2 ans. Et en fait, avec cet appel à projet, ça nous a permis surtout aussi, dans l'effet secondaire, c'est de créer un petit groupe d'acteurs principaux et de comprendre le sujet et de comprendre les premiers besoins. Et donc le premier besoin, ça a été de se dire qu'il fallait cartographier l'ensemble des lieux de médiation sur le territoire en fonction d'un certain nombre de critères et qui correspondent aux besoins de l'usager pour que les prescripteurs, ceux qui sont en difficulté, en gros, qui reçoivent le public, qui est en fragilité numérique, de pouvoir l'adresser auprès des lieux qui peuvent les aider et les former. C'est comme ça qu'en fait est née la plateforme Résine, Résine, resin.grandlyon.com. Qui permet en fait de cartographier tous les lieux de médiation. Donc à ce jour, on en a plus de 223, et qui, en fonction des besoins de l'usager, on va pouvoir trouver le bon lieu, au bon endroit, au bon horaire. Et donc, quand on parle de besoins usagers en tant que fracture numérique, en général, on parle de soit c'est du faire à la place d'eux, c'est-à-dire qu'en fait la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'outil numérique. Ça peut être pour des raisons de langue, ça peut être pour des raisons de pas d'envie, parce que quand par exemple on a 85 ans, on n'a pas forcément envie de se mettre au numérique, ou alors des problèmes de compétences. Et là, on va notamment les aider, les accompagner pour les former. Ça peut être aussi pour des besoins de connexion Internet. Donc tout le monde n'a pas la capacité de se doter d'une connexion Internet. Donc on doit s'associer à travers d'autres acteurs pour trouver des moyens. Pour qu'ils aient accès à des tarifs négociés de forfait, par exemple. Et ça peut être aussi des besoins en matériel. Et donc, c'est là où ça peut faire le lien avec Emmaüs Connect. Je vais juste dire 2 choses avant de laisser la parole à Amalia qui va reprendre la suite. C'était de dire que la métropole a aussi a répondu à un autre AMI de l'État. Donc, AMI, quand on dit AMI, c'est appel à manifestation d'intérêt. C'est pour la mise en place de 60 conseillers numériques sur le territoire métropolitain. En gros, c'est un conseiller numérique, c'est comme un écrivain public numérique. C'est une personne qui va aider une personne qui est en incapacité à faire une démarche, par exemple, en ligne. Mais quand on ne parlera pas que d'accès au droit, hein, vous verrez, l'accès au droit est une partie de la fracture numérique, mais pas que. Et donc, on en a mis 60 sur le territoire. Non, bon, je vais peut-être laisser Amalia compléter sur la partie, sinon je vais prendre trop le crachoir sur la partie notamment matérielle ou autre. En tout cas, la métropole s'associe avec les grands acteurs du territoire pour mener sa politique publique.
Merci à Rohan, bonjour à tous. Moi, c'est Amalia Sabi, je travaille pour l'association Emmaüs Connect en tant que chef de projet sur le déploiement d'un projet qui s'appelle la collecte.tech, mais je vais garder un petit peu d'infos là-dessus pour plus tard, juste pour revenir un petit peu sur nous, notre activité, nos origines. Nous, on existe depuis 2013, on est une association d'inclusion numérique. On est né, en fait, on a été incubé sur un chantier d'insertion d'Emmaüs Défi à Paris. En fait, à l'époque, ce qui se passait, c'était qu'on se rendait compte que les dépenses pour les salariés en insertion, de connexion, de forfait téléphonique étaient assez importantes pour leur budget. À l'époque, Free n'existe pas, donc il n'y a pas des petits forfaits qui sont disponibles pour ces salariés en insertion. Et du coup, l'idée, c'est de leur proposer des recharges à prix solidaire. Donc à l'époque, on lance un appel aux grands opérateurs et le premier opérateur qui répond, c'est SFR. Donc SFR qui est notre partenaire depuis le début. Donc ça a commencé en 2010 et puis en 2013, on décide de créer l'association. Peu à peu, on développe des points d'accueil un peu partout en France. Donc, dans la région, on a deux points d'accueil, un point d'accueil à Lyon, un point d'accueil à Grenoble. Ces deux points d'accueil, ils sont donc situés sur les deux métropoles de Lyon et Grenoble. Et c'est des lieux où on va vendre ces recharges prépayées aujourd'hui. On va faire de l'accompagnement aux usages et où on va vendre du matériel. Les bénéficiaires de toute cette offre, ce sont des personnes qui sont orientées par des personnes en situation ce sont des personnes en situation de précarité qui sont orientées par des travailleurs sociaux. Donc c'est comme ça qu'on s'assure que notre offre elle est proposée à des personnes qui en ont vraiment besoin. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup qui en ont besoin, mais des personnes qui en ont le plus besoin parce que voilà, c'est une offre, malheureusement, si on était ouvert à tout le monde, qui est tellement à bas prix que ce ne serait pas juste. Et puis, on se situe aussi sur le secteur non concurrentiel. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est en capacité de proposer des prix aussi bas et qu'on se doit de proposer des prix aussi bas. Pour vous donner une idée, une recharge prépayée chez nous, elle coûte 4 euros pour appel SMS illimité et 5 gigas d'Internet. Et pour rajouter ensuite 8 gigas, c'est 2 euros à chaque fois. Vous allez vous dire, mais le Free a un forfait à 2 euros. Oui, mais nous, on travaille aussi avec des publics qui sont débancarisés. Donc, pour avoir un forfait de téléphone, il faut avoir un compte en banque. Et aujourd'hui, quand on parle de personnes qui sont réfugiées, nous, on pratique un accueil inconditionnel. Hein, donc, on accueille vraiment tout type de public. La seule contrainte, c'est d'être orienté par un travailleur social. Peut-être, Erwan, on peut passer, sauf s'il y a des questions, on peut peut-être passer au constat et parler un petit peu de chiffres pour vous montrer un petit peu à quel point la fracture numérique est importante en France.
En tout cas, peut-être vous dire que quand on parle de fracture numérique, en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément connaissance de la volumétrie de nombre de personnes que ça représente, en fait. On estime à ce jour en France qu'il y a 13 millions de personnes, soit un sixième de la population qui est concernée par cette fracture-là. Sur les chiffres du baromètre du numérique qui ont fait l'état de l'année dernière, en fait, on considère que 54% des personnes éprouvent au moins une forme de difficulté qui les empêche d'effectuer des démarches en ligne. 54%, c'est un chiffre considérable. Et en fait, il y avait un outil notamment fait par une association qui s'appelle la MedNum, qui est la contraction de médiation numérique, qui parlait de toile des capacités. Et en fait, quand on parle de toile des capacités, c'est-à-dire en gros, en quoi le numérique, quand on n'y a pas accès, quels sont les freins dans les capacités qu'on a au quotidien, en fait. Et donc, en fait, c'est des freins au travail, c'est des freins dans la formation, c'est des freins dans le soin, dans les déplacements, dans l'accès aux biens de nécessité, dans la citoyenneté, dans le fait de se loger, de se détendre ou d'avoir des relations avec sa famille. Donc, en fait, on s'aperçoit bien que, en fait, quand on a des difficultés d'accès au numérique, quand on est en situation de fragilité numérique, on est mis en incapacité sur toute cette frange-là, en fait, c'est-à-dire quasiment toutes nos vies au quotidien. Donc, en fait, on se doit aujourd'hui, et c'est là où on a un gros travail, notamment auprès de nos travailleurs sociaux, qui étaient cantonnés à rendre un service social, et on s'aperçoit que maintenant, ce service social, comme il passe la plupart du temps par des outils numériques, on est obligé de confronter nos travailleurs sociaux au métier du numérique, en fait. Donc, il y a eu une période où les entreprises ou même les collectivités ont fait une transition numérique parce qu'elle a numérisé un certain nombre de choses. Et là, on s'aperçoit que dans les usages, maintenant que cette transformation elle a bien avancé, ben, un certain nombre de gens sont mis à côté. Et même tout à chacun, hein, c'est-à-dire qu'on est tous nous-mêmes confrontés à un moment donné à une situation de fracture numérique quand on est mis, par exemple, devant une borne ou autre, on a des difficultés. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a énormément de travail pour essayer de travailler cette question-là. Et si je parle uniquement sur la partie équipement, pour faire peut-être le lien encore avec toi, Amalia, on considère qu'il y a 12% des gens qui ont un équipement obsolète et 11% qui n'ont pas d'équipement du tout. Donc, en fait, il y a du travail et c'est une vraie question. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'entendre parler la défenseure des droits à ce sujet. Et notamment, ça crée du non-recours aux droits. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de la population qui a droit à des prestations sociales et qui, pour des raisons de fragilité numérique, n'est pas en capacité de faire appel de réclamer ces droits-là. Voilà. Peut-être Amalia, si tu veux compléter.
Ouais. Moi, je veux bien apporter une petite précision sur le matériel. Et effectivement, 11%, ça représente 8 millions de personnes en France qui n'ont pas d'équipement. Donc, c'est quand même, enfin, c'est à peu près 8 millions. Mais voilà, c'est assez énorme. Dans la région, pour vous donner une idée, on estime que les besoins en équipement, c'est environ 1 million de personnes. Et si on prend les chiffres du premier quintile, donc les 20% des ménages les plus pauvres, qui sont finalement les publics les plus que nous, chez Maïs Connect, on accompagne en majorité, ça représente plus de 170 000 personnes. Donc voilà, c'est quand même assez important. Nous, on est 15 salariés sur la région. Moi, aujourd'hui, je mène un projet je suis responsable d'un projet qui a pour but d'équiper toutes ces personnes. Donc, on en est loin parce que l'année dernière, on a équipé environ 1000 personnes. Bon, on aura l'occasion peut-être de détailler un peu ça après, mais voilà. Donc, le constat, il est assez affligeant. Et j'irais même plus loin, c'est que aujourd'hui on parle de fracture numérique. Nous, bon, on promeut aussi grâce à ces initiatives le réemploi de matériel. Aujourd'hui, on vend que du matériel reconditionné grâce aux dons des entreprises. On pourra détailler un peu le processus après quand on parlera des initiatives. Mais voilà, l'idée, c'est que il y a ces 170 000 personnes qui sont en situation de précarité et qui sont des foyers qui gagnent moins de 1 500 euros par mois et qui sont en besoin d'équipement. Donc voilà, nous, on essaye de pouvoir les équiper en matériel, que ce soit en ordinateur, smartphone ou tablette. Et j'insiste aussi sur le fait que c'est bien d'avoir un matériel, mais il faut aussi savoir s'en servir. Et là, je rejoins ce qu'Arwan disait. Nous, tous les jours, on a des gens qui sont orientés, qui viennent s'inscrire et qui nous disent « Moi, aujourd'hui, si je ne peux pas me servir d'un ordinateur, je ne peux plus faire mes démarches sur le site de la CARSAT », c'est des gens qui vont être retraités et qui n'arrivent pas à suivre leur dossier en ligne. C'est des gens qui ne vont pas réussir à faire leur demande de RSA ou bon, quoi qu'il peut y avoir encore des guichets là-dessus. En tout cas, à Lyon, on a énormément de chance parce qu'on a des collectivités, c'est pas pour lancer des fleurs à Erwan, mais qui en tout cas essayent de maintenir des guichets ouverts pour que les gens puissent venir faire leur démarche. ce qui n'est pas le cas de tous les territoires. Donc voilà, on a aussi de la chance sur le territoire de la métropole de Lyon pour ça. Nous, pour vous donner un exemple, dans nos locaux, on vend des téléphones à touche aussi. On vend des téléphones à touche pour dépanner à 5 euros. C'est vraiment pour dépanner. Et nous, on préconise quand même au moins l'achat d'un smartphone par famille. La problématique, elle est plus sur l'approvisionnement en smartphone que les téléphones à touche. Ça dégueule les placards, j'ai envie de dire. Les smartphones, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est nous, on considère que pour aujourd'hui pouvoir faire à minima certaines démarches, consulter ses mails, faire des recherches sur Internet, etc. Par exemple, même l'actualisation Pôle emploi, elle est disponible sur smartphone. Mais voilà, c'est le minimum, quoi. Donc oui, on peut combler l'urgence, mais l'idée, c'est de pouvoir équiper avec des équipements numériques un peu plus poussés, quoi.
D'accord, merci. Le Covid nous a énormément aidés pour la compréhension et la prise en charge de cette question. C'est-à-dire que politiquement, le sujet n'était pas forcément porté, et à partir du moment où on a été confiné, l'a été énormément. Tout le monde a pu prendre conscience, en interne comme en externe, de la nécessité d'être équipé et de pour pouvoir être sociabilisé, consommer, avoir accès à la santé, à l'éducation, et que ça devait être une vraie question. Et c'est à partir effectivement de 2020 que la métropole s'est dotée d'une feuille de route sur cette question. Alors, avant peut-être de parler de la feuille de route, peut-être que Amalia va parler des actions concrètes qu'elle a faites pendant cette période-là, mais effectivement, Emmaüs a pu doter un certain nombre de collégiens en clé 4G et en matériel informatique.
Tout à fait. En fait, nous, on est une association d'inclusion numérique. On existe depuis 2013, comme je vous l'ai dit. Et je rejoins Erwan sur le fait qu'en 2020, pendant le confinement, ça n'a pas... En fait, la fracture numérique, elle était déjà là. C'est juste que ça l'a vraiment mise en lumière. Et d'un coup, tout le monde était conscient de ça. Ce qui est, nous, ça s'est ressenti chez nous. Hein. On était 40 salariés avant le Covid. On est 150 aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour vous dire que du coup, il y a eu une prise de conscience collective et ça se ressent, nous, sur nos effectifs et sur les projets qu'on a été en mesure de déployer depuis. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, pendant le confinement, on a développé un projet qui s'appelait Connexion d'urgence, grâce auquel, entre mars 2020 et mars 2021, on a équipé et connecté, donc soit avec de l'équipement et en recharge, plus de 40 000 personnes sur le territoire français. De là, on s'est dit, mais c'est hyper important qu'on continue, parce que on n'est pas à l'abri déjà que ça recommence. Et puis, quand bien même, il ne faut pas attendre d'être dans ces situations de confinement pour que les personnes soient en mesure de s'équiper et d'avoir une connexion Internet. C'est le minimum. Et puis je reviens sur ce que disait la défenseur des droits au Forum Résine de l'année dernière, mais on est même en train ils sont même en train d'essayer de voir s'il n'y aurait pas un jour un droit à la connexion, comme il y aurait un droit d'accès à l'électricité, à l'eau, etc. Donc, on en est là. Et je pense que c'est important de le dire. Et donc, nous, après le premier confinement, on s'est dit, mais voilà, il y a eu une grosse période de solidarité pendant ce premier confinement. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On a eu des dons des entreprises en masse à ce moment-là. On va s'organiser pour pouvoir collecter en masse et reconditionner en masse. Donc, nous, ce qu'on fait, et moi, ce que je pilote dans la région, c'est ce que nous, chez nous, on va appeler une filière. Je dis filière entre guillemets parce qu'on n'est pas au sens d'une filière industrielle, mais une filière de reconditionnement solidaire. En somme, c'est un projet qui va rassembler trois acteurs majeurs. C'est des donateurs. Des donateurs, ça peut être des entreprises, des collectivités, n'importe quel organisme public. N'importe quel organisme qui veut donner son matériel est invité à le faire sur notre site internet qui s'appelle lacollecte.tech ou directement en prenant contact avec moi. Donc ensuite, ce matériel, il est envoyé chez nos partenaires reconditionneurs. Donc nous, on travaille exclusivement avec des structures d'insertion. Donc l'idée, c'est de promouvoir aussi le secteur de l'économie sociale et solidaire qui fait travailler des personnes en insertion qui sont éloignées de l'emploi. Donc nous, notre partenaire dans la région aujourd'hui, c'est Trier-Rhône-Alpes, qui est situé à Pont-Évêque, à côté de Vienne. Donc, Trira, qui est un atelier chantier d'insertion, qui fait du reconditionnement depuis 2015, qui s'est énormément professionnalisé. Ils font les effacements de données sécurisés. On peut vous fournir tous les certificats d'effacement, les rapports d'audit, etc. Enfin, voilà, tout le matériel est traité vraiment comme si vous l'envoyiez dans une entreprise classique. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, on est en train de développer aussi ce réseau d'entreprises solidaires qui travaillent avec nous. On discute notamment avec Ecoder ou avec d'autres reconditionneurs ailleurs dans la région. Voilà. Et le troisième maillon un petit peu de cette chaîne, c'est les structures distributrices. Donc, nous, on vend le matériel dans nos points d'accueil à Lyon et à Grenoble. On organise des projets, notamment un gros projet qui a été soutenu par la métropole de Lyon l'année dernière, où on a équipé plus de 300 jeunes sur le territoire métropolitain, dont des collégiens, dont des étudiants et des bénéficiaires du revenu de solidarité jeune, qui est un gros projet porté par la métropole pour permettre aux jeunes de moins de 25 ans d'avoir un petit revenu parce qu'ils ne sont pas éligibles au RSA, etc. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les initiatives de la métropole qui sont toutes très bien. Et enfin, on a développé un autre projet en parallèle de ce projet de collecte qui s'appelle les relais numériques depuis le premier confinement aussi, où on s'est dit, mais voilà, nous, on a 13 points d'accueil en France. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en ouvre d'autres? Et en fait, on s'est dit, mais non, enfin, il y a plein de structures qui connaissent leur territoire. Nous, on a la compétence de l'inclusion numérique, mais l'idée, c'est qu'on puisse transférer ces compétences. Donc, on a tout un projet qui s'appelle les relais numériques, où on conventionne avec des structures et on les forme pour qu'elles puissent mettre à disposition toute notre offre, donc connexion, accompagnement et matériel. Donc, ça peut aussi être des structures distributrices. Donc, voilà, je sais que ça peut être un peu dense, mais en gros, comment ça se passe? Donc, nous, après, la relation avec les donateurs, elle est assez simple. On essaye de faire un petit inventaire pas forcément détaillé de ce que vous avez à donner, essentiellement ordinateur portable, smartphone, tablette. J'insiste là-dessus parce que les ordinateurs fixes, c'est très bien et on les récupérera en même temps, mais nous, ça ne va pas nous permettre d'équiper nos publics qui parfois n'ont pas de domicile fixe et puis qui n'ont pas forcément les compétences numériques pour installer des ordinateurs fixes chez eux. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et voilà. Et du coup, on a vraiment ces trois équipements. Ensuite, on vous fait un rapport avec tous les effacements de données, etc. Et puis, on peut vous faire un bilan d'impact avec le nombre de personnes que vous avez pu équiper, etc. Donc, il y a un côté RSE et gestion aussi de fin de vie de votre parc. Donc voilà pour l'initiative La Collecte. Et évidemment, toutes ces personnes, elles sont bénéficiaires d'Emmaüs Connect, donc elles peuvent venir bénéficier d'un accompagnement sur les compétences numériques. Donc, on leur propose de venir, on a des permanences dans nos points d'accueil, mais on propose aussi des parcours d'initiation. Donc, évidemment, on leur vend pas un équipement juste pour leur vendre. L'idée, c'est aussi de leur... Enfin, parfois, elles ont besoin juste d'acheter un équipement et elles sont très à l'aise dessus, mais parfois, elles ont aussi besoin de plus. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut leur proposer de la connexion. Et puis, pour des solutions plus durables, on va proposer aussi des rendez-vous de conseil pour proposer des solutions avec des opérateurs dans leur budget, quoi. Voilà. D'un point de vue national, on repose sur une communauté de plus de 1500 bénévoles. Donc, c'est voilà, y a évidemment, on serait incapable de faire le quart de ce qu'on fait sans nos bénévoles. Nous, à Lyon et Grenoble, c'est une communauté si je dis pas de bêtises, plus de 300 bénévoles actifs. Donc, actifs, ça veut dire qu'ils ont fait une action de bénévolat dans les trois derniers mois, sachant qu'on en a beaucoup plus, du coup. Et évidemment, on a des mécénats de compétences aussi. On a surtout des mécénats de compétences, en fait, aujourd'hui, qui viennent en fin de carrière. Donc, on a par exemple à Grenoble un mécénat de compétences de chez Schneider et un autre de chez Atos. Donc, voilà, il y a évidemment ce type d'initiatives qui sont les bienvenues chez nous. Donc, il peut y avoir ça et je vous invite à me contacter si vous avez des choses à proposer à ce sujet-là. Nous, sur les filières de recyclage, on est en partenariat avec Ecologique, c'est nos financeurs. Mm-hmm. Donc, évidemment, on est en mesure de vous dire quels sont on va dire vos matériels qui sont partis en filière de recyclage. Nous, on a de la chance parce qu'on en a très peu. Parce que d'une part, on travaille avec une structure qui va beaucoup dans le réemploi, qui fait ce qu'on appelle du démantèlement. Donc, en fait, réutilise des pièces, etc. Donc, en fait, on a très peu de machines qui partent en recyclage. Et en ce qui concerne la quantité, en fait, nous, notre but, c'est évidemment… Moi, je suis arrivée sur ce poste en l'année dernière. Plus le projet prend de l'ampleur dans la région, plus on a de matériel. Et donc, plus les flux sont importants. Trira, aujourd'hui, est un petit peu… on a beaucoup de matériel qui rentre. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir cet écosystème. Je ne connaissais pas ATF Gaïa. Je ne sais pas où ils sont implantés. Dans la région, peut-être, je ne sais pas. Nous, dans la région, on travaille aussi… On est en lien avec AFB, qui est une entreprise adaptée, qui est membre du réseau Adira. Donc, on est en train de voir avec Stéphane de AFB comment on pourrait travailler ensemble. Et notre but aussi, c'est de faire grandir cet écosystème pour que toutes les structures, quand je dis structures d'insertion, c'est structures qui poursuivent un but d'insertion, donc ce n'est pas des SIAE, c'est structures d'insertion au sens large et les entreprises adaptées en font partie. Donc évidemment, notre but, c'est de valoriser cet écosystème. On sait qu'il y en a comme AFB qui sont là depuis des années et qui n'ont pas du tout besoin de nous pour ça. Nous, on sait aussi la force de frappe qu'on a grâce au nom Emmaüs. Et c'est dans cette optique qu'on parle de la collecte Pointec comme un collectif d'acteurs qui s'engagent pour que les personnes en précarité soient équipées. Donc, en tout cas, en termes de quantité, grâce à ce collectif, on sera en mesure, évidemment, de collecter en masse. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, depuis le début de notre partenariat avec Trira, on a traité plus de… On va arriver à quasiment 3000 équipements là depuis fin 2021. On a évidemment besoin que… Alors, Trira travaille avec nous d'un point de vue national, donc parfois on envoie du matériel ailleurs en France. Donc dans la région, c'est pour ça qu'on a équipé 1000 personnes en 2022. Mais voilà, en gros, pour vous donner, aujourd'hui, notre capacité, elle est celle-ci. Et on est en train de l'augmenter en faisant des partenariats avec d'autres structures. Donc, sur la partie valorisation des déchets, on est en partenariat avec Écologique et on sait que vous avez cette exigence de reporting. Mais nous, en soi, sur le matériel qu'on va collecter, ce ne sera pas la majorité, loin de là. Oui, je n'ai pas précisé ça. Nous, on a développé un outil de traçabilité interne. Et donc, en fait, quand on collecte vos machines, elles sont rentrées à l'unité dans notre outil de traçabilité. Donc, on est capable de dire à l'ordinateur près, même au smartphone près, quelles sont les machines qui venaient de votre entreprise. D'accord. Et du coup, quelles sont celles qui ont été envoyées en filière de recyclage, quelles sont celles qui ont été réemployées, quelles sont celles qui ont été vendues, etc., etc.
C'est que dans une de nos actions, c'est notamment à la métropole, donc comment on joue un rôle de coordination du réseau. On va jouer aussi un rôle de coordination des acteurs du reconditionnement au sein du territoire. Et en fait, c'est ce que Sylvain précisait, c'est qu'il y a une future rencontre le 13 mars prochain où seront invités une quinzaine de reconditionneurs, en fait. Parce que sur le territoire, on a WeFound, Ezenia, Trira, Codeo, évidemment que j'en oublie. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, on s'aperçoit que il y a du gisement à récupérer en matériel au niveau de la métropole et ce gisement doit être valorisé. Et c'est là où j'interviens en tant que chef de projet inclusion numérique pour trouver une seconde vie auprès notamment des gens qui ne sont pas en capacité de s'équiper. Peut-être, je refais un petit point en arrière, c'était de vous dire que la métropole, en fait, pour attaquer le sujet de l'inclusion numérique, elle a voulu prendre le sujet autour de quatre grands axes, en fait. Le premier était de soutenir, développer des actions auprès des professionnels de la médiation numérique. Donc, en gros, c'est vraiment ce rôle de coordination, de coordinateur, de financement, d'événementiel autour de ces questions-là. L'axe 2, c'était de former ses propres agents. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que les agents métropolitains sont parfois eux-mêmes en difficulté avec le numérique, ce qui pose des problèmes dans leur vie pour mener à bien les compétences qu'ils doivent avoir, notamment auprès des publics. Il y a la notion d'être exemplaire, donc ça c'est le quatrième axe, être exemplaire sur la manière dont nous on dématérialise pour ne pas générer nous-mêmes les problèmes qu'on veut régler par ailleurs. Et puis, il y a des actions qu'on mène, qui est l'axe 3, qui est de développer des actions directes auprès des publics. Donc, si je voulais que je traduise ça sous forme de projet, donc la plateforme Résine, c'est ce qui jouerait le rôle de fédérer les acteurs, où là où on propose un outil de cartographie, un annuaire des acteurs, un outil d'orientation, une ressourcerie qui va arriver bientôt. Il y aura la possibilité de prendre un rendez-vous directement auprès d'un conseiller numérique sous format comme Doctolib, en fait, en fonction de la prescription et du lieu de la personne à accompagner. Si je vous donne des axes pour directement auprès des publics, on est en train de mettre en place un outil qui s'appelle Mes Papiers, où l'idée, c'est pour, en fait, les grandes difficultés quand on fait une démarche en ligne, souvent, c'est d'arriver avec les papiers et la complétude du dossier. Et donc, en fait, on veut mettre un espèce de cloud où on puisse soit photographier les pièces et les stocker au bon endroit, soit via des connecteurs directement, par exemple, Free peut téléverser les factures ou la CAF ou Pôle emploi directement les bons justificatifs au bon endroit pour qu'ils puissent être partagés à des professionnels pour faciliter l'instruction de cette demande-là. On en a déjà parlé, donc il y a la partie matérielle où on a travaillé avec Emmaüs sur des dons secs et avec WeFund sur des kits inclusifs où là on associait la remise de matériel à 6 heures de formation pour s'assurer qu'il y en ait bon usage auprès des bénéficiaires, des clés 4G et du SAV sur le matériel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a eu les conseils numériques, les passes numériques, je ne sais pas en fait. Et puis là, on va lancer un certain nombre d'appels à projets, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que pour mieux fédérer le réseau, autant s'appuyer sur les acteurs existants. Et donc, en gros, on va financer un certain nombre d'actions, et notamment sur les kits inclusifs que je parlais récemment, on va lancer un appel à projet d'une hauteur de quand même de. Alors, Amalia, je vais te la prendre. Ce n'est pas 450 000, mais 600 000 euros sur les 4 prochaines années, puisque notre objectif, c'est de pouvoir aider 2000 personnes sur les 4 prochaines années. On sait que ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même 600 000 euros est quand même un chiffre conséquent. En fait.
Alors, chez Trira, en fait, ça va dépendre du reconditionneur. Nous, un de nos critères pour travailler avec nous, c'est d'avoir un logiciel d'effacement de données. Donc après, nous, on n'est pas fermé à ce qu'il y en ait un plutôt qu'un autre. On travaille avec des reconditionneurs comme Blanco. Nous, Trira, c'est Eken. Donc, c'est un logiciel que nous, on préconise aussi, que du coup, quand on travaille avec des reconditionneurs, c'est des petites structures qui sont en train de monter en compétences. C'est le logiciel qu'on leur conseille parce que voilà, c'est un logiciel qui est assez abordable et qui permet de faire plusieurs types de réécriture sur le disque, qui génère les effacements, qui fait tout l'audit et l'effacement dans le même logiciel. Donc nous, ça nous arrange aussi. Faut savoir que nous, Trira, c'est plus que des partenaires. Hein. On travaille avec eux de manière hebdomadaire et voilà. Donc on peut totalement discuter aussi de manière transparente. Aujourd'hui, non. Quand vous êtes client de Trira, en gros, et du coup, c'est Trira qui traite votre matériel. Par contre, aujourd'hui, on est dans une démarche tellement… on leur apporte beaucoup de matériel. Donc, ils sont prêts aussi à ce que… Par exemple, on a eu cette démarche-là avec April, qui était un donateur assez historique de Trira, bon, qui n'est plus un donateur aujourd'hui, mais parce qu'ils ont changé de mode de fonctionnement pour leurs ordinateurs. Et c'est dommage, mais ce n'est pas grave. Et on a signé une convention tripartite, en fait, pour qu'une partie des dons d'April soit fléchée vers la filière solidaire qui est gérée par Emmaüs Connect. En fait, de toute façon, ça ne change rien pour le matériel. Le matériel est traité de la même manière. C'est simplement qu'il y a une partie du matériel qui appartient à Emmaüs Connect une fois donné et qui, du coup, va partir obligatoirement dans cette filière solidaire. Ce que vous ne pouvez pas vous assurer vous pouvez pas vous assurer que vous allez équiper des personnes en situation de précarité quand le matériel part chez Trira, mais ils équipent aussi tout type de personnes. Ils ont un tiers lieu, ils sont dans une démarche de vente grand public, donc c'est pas du tout la même démarche que la nôtre, et c'est aussi une très belle démarche. Ils ont des activités, ils font de la formation, etc. C'est assez différent, mais voilà, donc on peut avoir ce type d'échange.
Moi, je me suis intéressé à ce café virtuel pour deux raisons. Hein, bah, effectivement, parce que je travaille pour une collectivité de la métropole grenobloise, et donc on est bien au fait de ce qui se passe dans le cadre des projets d'accompagnement sur l'aide à la fracture numérique. Mais surtout, j'avais sollicité aussi la DIRA sur un autre sujet il y a un an pile au moment de la crise ukrainienne, puisque j'étais concerné directement, et Emmaüs Connect nous a beaucoup aidé, puisque pour tous les ressortissants bénéficiant de la protection temporaire par le biais d'une association qu'on a créée qui s'appelait Ukraine Grenoble Isère, on a pu flécher effectivement toutes les personnes réfugiées qui avaient des besoins d'urgence, hein, principalement des femmes et des enfants qui sont venus sur le territoire, de l'ordre de 3000 personnes à peu près, hein, aujourd'hui, qui sont venues se mettre en sécurité du fait des événements en Ukraine. Voilà. Donc, pour rajouter effectivement qu'il y avait un besoin particulier aussi au niveau de l'équipement dans ce contexte-là, de type bande 4G, qui permettait effectivement d'aider et d'accompagner les personnes qui mettaient à disposition des logements vacants, ou les villes qui mettaient à disposition des logements à caractère d'urgence pour lesquels il n'y avait pas de connexion Internet, en fait. Voilà, c'était aussi un des points que je voulais souligner et sur lequel on avait été aidé également.